Riccardo Petrella, vous êtes politologue et économiste italien, professeur à l'université de Louvain en Belgique, considéré comme une figure emblématique de l'altermondialisme, connu notamment pour vos positions sur la défense du bien commun contre la privatisation, contre la marchandisation des ressources. Et vous serez donc à Arras ce mercredi 24 octobre pour les journées de l'eau. Alors avec vous, si vous voulez bien, Riccardo Petrella, peut-être brosser le tableau de la situation mondiale de la gestion de l'eau.
La première impression qu'on a quand on regarde le problème de l'eau de par le monde, et c'est une impression assez dramatique, c'est que finalement, encore aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards et 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau pour les services hygiéniques, sanitaires, et quand vous manquez de l'eau, justement, pour l'hygiène, cela signifie que vous avez une santé à risque, fragile. D'ailleurs, il y a plusieurs milliers d'enfants qui meurent chaque jour de par le monde. Chaque jour, 5 000 enfants du fait de ne pas avoir accès à l'eau potable et à l'eau pour les services hygiéniques et sanitaires. Et ça fait beaucoup d'êtres humains comme vous et comme moi, pour lesquels l'eau qui devrait et qui est considérée partout et tout le temps comme une ressource vitale, fondamentale, manque. C'est un scandale. Au fait, la première impression vous donne le sentiment d'une société qui ne reconnaît pas et qui est incapable de créer les conditions matérielles, économiques, pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau potable et à l'eau pour l'assainissement, alors que ce même accès vient d'être le 28 juillet 2010, d'être reconnu comme un droit humain par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est-à-dire que depuis 2010, pour la première fois dans l'histoire de la communauté internationale, nous avons l'organe politique le plus représentatif du monde, qui est les Nations unies, qui ont reconnu que cela est un droit humain, et bien qu'il y a des milliards de gens qui n'ont pas accès concrètement à l'eau potable et à l'eau pour l'assainissement. Et ça, effectivement, c'est un premier don fondamental qui doit nous obliger de réfléchir, décider pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait moi, pourquoi cette situation, etc. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce premier don, c'est que dans le monde actuel, il y a davantage de personnes qui ont accès à un téléphone mobile. Ils sont plus de 4 milliards et 800 millions de gens qui ont accès à un téléphone mobile, alors qu'il y a moins de personnes par le monde qui ont accès aux toilettes publiques, pas aux toilettes à la maison. Alors qu'on peut vivre sans téléphone mobile, mais jamais personne n'a pu vivre sans avoir accès à l'eau potable et à l'eau pour les services hygiéniques et sanitaires. C'est une donne qui est faite. C'est-à-dire que ça signifie que la science, la technologie, notre puissance technologique, notre puissance financière, notre puissance économique, sert davantage à permettre d'avoir accès aux gens au téléphone mobile parce que cela c'est rentable. Alors ne permet pas cette science, cette technologie, cette finance puissante de donner accès aux toilettes qui sont au contraire un instrument vital pour la santé, pour l'hygiène et pour la vie. Extraordinaire. Deuxième point, deuxième image de l'eau de par le monde, c'est que l'eau bonne pour usage humain, l'eau bonne pour les usages domestiques, pour l'agriculture, l'irrigation, pour l'activité industrielle, etc., est de plus en plus rare. Et on l'a raréfiée. Elle n'est pas rare parce que les nuages ne veulent plus envoyer les pluies. Elle est rare parce que nous en avons fait un usage inconsidéré, un gaspilleur, un usage sans sagesse. On a séché des lacs, on a séché des rivières, on a contaminé, pollué toutes les eaux, les sources, les nappes phréatiques, partout de par le monde, nous avons fait un usage catastrophique des eaux. Et même les pays riches en eau, comme la France, par exemple, des situations de sécheresse deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. L'eau devient rare pour usage humain, l'eau bonne pour usage humain, donc parce que l'eau existe toujours. L'eau ne diminue pas, la quantité d'eau dans le monde ne diminue pas, elle reste stable à peu près entre différences d'eau salée, les océans, etc., et l'eau douce. Et l'eau ne change pas, la quantité de l'eau sur la planète est stable. Depuis, l'eau d'aujourd'hui est la même sur la Terre qu'il y a 300 millions, et sera la même d'ici un milliard. Ce qui change, c'est la disponibilité et l'accessibilité de l'eau bonne pour usage humain. Et ça, c'est à cause de nous. C'est nous qui abusons de l'eau. C'est nous qui faisons des villes comme Las Vegas, qui c'est une folie du point de vue de l'eau. C'est nous qui faisons, vous gérez bien du nord du Québec, à Québecville, où il y a peut-être fait chaud un mois et demi par an, eh bien, toutes les maisons familiales uniques de Québec sont tous remplies de piscines. Et ensuite, on a un gaspillage énorme, surtout le plus grand gaspillage énorme, c'est l'eau pour l'irrigation, parce qu'on utilise une technologie qu'on appelle par aspersion, par dispersion, par pulvérisation, et 40% de l'eau utilisée pour irriguer les champs se perd par évapotranspiration avant d'atteindre le terrain. Ce n'est pas à la maison que sont les plus grands gaspillages. L'eau pour la maison, de par le monde entier, peut arriver à 10% de tous les prélèvements. Et dans nos sociétés développées, l'eau pour la maison ne représente que 20-22% de tous les prélèvements. En revanche, c'est l'agriculture, c'est l'industrie. Et en particulier, par exemple, en France, c'est surtout pour l'industrie nucléaire. On utilise davantage d'eau pour l'industrie nucléaire que pour l'agriculture. Et ça, c'est des gaspillages terribles. Et de sorte qu'à l'heure actuelle, tout le monde annonce que l'eau va devenir rare à cause aussi des changements climatiques qui auront des impacts négatifs sur l'accessibilité de l'eau bonne. Et alors, l'eau devenant rare, les dominants, ils disent, on ne peut pas changer, on peut pas changer notre mode de vie parce que c'est la croissance, le bien-être, le bonheur d'avoir ce mode de production, de consommation actuel. Donc le bonheur ne peut pas toucher au bonheur, et là on continuera à rendre rare l'eau. Tout en plus, on peut faire un peu de développement durable. On peut essayer de diminuer l'utilisation de l'eau pour faire les bouteilles en plastique, pour faire des voitures, etc. Mais il faut continuer à faire des voitures. Il faut continuer à produire Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, etc. Il faut continuer de plus en plus parce que la population augmente. Donc on nous donne comme inévitable quelque chose qui n'est pas, qui est l'eau sera rare. Et peut-être l'eau ne sera pas disponible pour tout le monde. Et il n'y aura que ceux qui peuvent payer. C'est pour cela qu'on dit plus quelque chose devient rare, plus doit d'être cher du point de vue du prix, et cher l'accessibilité. Et en effet, quand il y a trop de gens qui veulent la même chose, on sélectionne en augmentant les prix. Et ceux qui ont moins de pouvoir d'achat seront éliminés de l'accès à la chose qu'on désire. Mais ici, ce n'est pas une question de désir. Ici, ce n'est pas que vous pouvez choisir de ne pas boire. C'est une obligation fondamentale. Et c'est un droit, c'est pour ça que c'est un droit, ce n'est pas simplement un besoin qu'on peut satisfaire en achetant l'objet de désir. L'eau est inévitable, vous ne pouvez pas ne pas boire, vous ne pouvez pas ne pas avoir l'eau pour l'hygiène, vous ne pouvez pas ne pas avoir l'eau pour irriguer les champs, pour permettre à la terre de produire ce qu'effectivement on n'a besoin pas, pour produire des végétaux pour les transformer en énergie biocarburant. Ça, c'est aussi une autre insensé, c'est une autre manière incroyable de violenter la nature. Mais l'eau, l'agriculture, pour le riz, pour le blé, pour donner l'alimentation à des milliards de gens qui encore aujourd'hui en souffrent, On n'utilise pas l'eau pour faire l'agriculture, pour l'exportation, pour uniquement les biens qui se vendent dans toutes ces zones, pour les catégories riches des pays riches. On doit avoir l'eau pour l'irrigation, pour produire l'essentiel, pour l'alimentation locale, pour l'alimentation de la survie des gens, la qualité et la santé des gens. Et donc, quand les dominants disent l'eau va devenir rare, ils font violence au futur des gens. La troisième caractéristique du monde actuel, c'est qu'à cause de cet usage mauvais, à cause de la contamination, de la pollution, etc., on a fait une opération extraordinaire. C'est un miracle à l'envers. On a rendu l'eau qui est renouvelable. L'eau, la caractéristique de l'eau, c'est qu'elle se renouvelle. C'est pas comme le pétrole. Les fleuves, à cause du cycle intégral de l'eau, l'eau des fleuves se renouvelle, l'eau des lacs se renouvelle en permanence. C'est pour cela que la vie est là. Parce que l'eau qui est source principale de la vie est en permanence en renouvellement. Eh bien, en séchant les fleuves, les lacs, l'eau, elle est toujours là. Seulement, on l'a transformée ailleurs. Et on a fait de l'eau dans certains systèmes de bassins hydrographiques comme si elle était épuisable. Et l'eau devrait être renouvelable partout. Et en revanche, on a dit, il n'y a plus d'eau. Et ça, c'est un miracle négatif. Parce qu'on a réussi à modifier les cycles de la vie. Et en modifiant les cycles de la vie, c'est qu'on a fait un vol à la vie. Et d'ailleurs, il y a accès à la vie qualitativement bonne pour la santé et pour les autres, uniquement par les groupes les plus forts, les plus puissants, les plus riches. Et voilà, quatrième alors impression sur le monde, c'est que si on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, et aujourd'hui on fait encore pire, compte tenu de la raréfaction croissante de l'eau qu'on ne veut pas modifier, on veut monétiser l'eau. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on monétise les services hydriques. On vous potabilise l'eau, on vous donne l'eau à la maison, et on vous dit, voilà, vous payez les services hydriques. Ce qui est déjà une question sur laquelle, dans quelques secondes, je reviens rapidement. Vous payez les services hydriques. Et on nous a toujours dit, mais non, vous ne payez pas l'eau. L'eau est un bien commun. L'eau est gratuite, l'eau vient du don du Dieu, vient du ciel, etc., vient des viscères, du ventre de la terre, c'est l'eau est toujours gratuite, mais vous payez les services hydriques. Eh bien maintenant, la communauté internationale, sous la pression de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, et des grandes compagnies multinationales de l'eau, surtout les compagnies multinationales françaises, qui sont les dominatrices, les seigneurs de l'eau en ce moment. Ce sont vos Suez, vos Veolia, sont vos Sauer Bouygues, sont vos eaux de Marseille, sont vos eaux de par le monde impose et développe ces idées. On a monétisé l'eau. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer des méthodes à partir de l'Office Water, l'Office de l'eau de Grande-Bretagne, en combinaison avec les multinationales, et ils sont en train de calculer comment donner une valeur économique au Rhône, à l'eau du Rhône, et comparer avec l'eau de la Durance, ou bien l'eau de Bretagne, ou bien l'eau du Rhin, ou bien l'eau africaine, ou bien l'eau américaine, ou l'eau du bac Baïkal, à déterminer les valeurs, par exemple, des bassins, les bassins du Guarani, qui est le plus grand au monde, en Amérique latine, le bassin du lac Baïkal, et on veut l'eau du lac, l'eau du lac Victoria en Afrique, ou bien l'eau du Garda en Italie, ou bien le lac Owen qui est disparu aux États-Unis, les grands. Et alors, utiliser cette valeur économique des différents lacs, des différents fleuves, des différents nappes, pour jouer à acheter, parce qu'on permet maintenant de plus en plus, à acheter l'eau en vrac. Et alors, par exemple, Coca-Cola, dont la matière première essentielle, Coca-Cola ne vivrait pas sans eau. Et s'il n'y a pas d'eau, si l'eau n'est pas accessible à un prix qui lui convient, Coca-Cola meurt. Et donc Coca-Cola pousse pour avoir la possibilité d'acheter en vrac l'eau éventuellement d'un grand fleuve de la Sibérie, si ça lui convient mieux qu'acheter, s'approvisionner à l'eau du Rio Tinto ou du Rio Grande au Mexique. Et donc il y a le marché mondial de l'eau. On veut que l'eau, puisqu'il est monétisé maintenant, on sait combien va valoir la Seine bientôt, et alors on fait le marché de l'eau des fleuves, le marché de l'eau de la mer, comme on fait le marché mondial du pétrole, et comme il y a ou du blé, et comme il y a un prix mondial du blé, un prix mondial du pétrole, il va avoir un prix mondial de l'eau. Et comme il y a des prix spéculatifs sur le blé et sur le pétrole, même si la quantité de pétrole de blé ne change pas, eh bien, il y aura les prix spéculatifs sur l'eau. Si on laisse faire nos dominants, parce que, par exemple, le président de Nestlé Brabeck, l'année passée, avait proposé, pour résoudre le problème de la rareté de l'eau, de mettre une bourse de l'eau. Et de l'eau, la logique de l'économie de marché, justement, il disait, le président de Nestlé, la bourse de l'eau décidera à quel usage on va mettre l'eau. Et ce sera les usages les plus rentables qui auront le droit d'avoir davantage d'accès à l'eau rare. Et comme ça, ce sera une bonne manière de régulation du marché de l'eau. Mais des choses insensées, tout ça. Et alors, si on les laisse, on va avoir la guerre de l'eau. Et d'ailleurs, on nous raconte tout le temps qu'il va y avoir la guerre de l'eau. Le futur qu'on promet nos classes dirigeantes à notre monde, c'est les guerres. Il va y avoir les guerres de l'eau, comme il y a eu les guerres de pétrole, comme il va y avoir des crises de plus en plus, des conflits de plus en plus graves sur les blés, sur les riz. Ben, les dominants, si on les laisse faire, ils nous annoncent un futur de guerre, de conflits. Et des conflits sur les biens essentiels, indispensables à la vie. Or, l'eau est, comme les autres biens essentiels substituables à la vie, sont des biens communs, ils ne sont pas privatisables. La directive cadre européenne en matière de l'eau de l'an 2000 dit que l'eau est une marchandise. Il le dit de manière diplomatique en disant « l'eau n'est pas une marchandise comme les autres, mais ça reste une marchandise ». On marchandise tout. On marchandise l'eau. Et donc alors il faut arriver à privatiser tout. Tous les services d'eau, tout, même maintenant l'appropriation de l'eau en tant que telle, puisqu'on la monétise. Et donc, maintenant, je dirais que devant ce scénario qui, hélas, c'est pas moi qui suis pessimiste, hélas, il est négatif. C'est les dominants qui disent que l'eau est rare, qu'il va devenir encore plus rare, qu'il y aura des conflits, qu'il y aura des guerres. Et alors, devant ces scénarios, il ne faut pas laisser que ce soit les marchés financiers qui font la sélection de l'accès. Parce que la sélection qu'ils feront de l'accès sera la sélection. C'est-à-dire, ce sera pas le droit, répondre au droit. Mais on aura droit d'accès à l'eau uniquement ceux qui peuvent payer et au prix le plus élevé. Et uniquement dans les pays qui auront les technologies et les ressources financières pour financer les coûts des technologies nouvelles, pour permettre d'avoir malgré tout accès à l'eau pour les activités productives, pour Coca-Cola, pour les téléphones mobiles, pour les iPads. Vous savez que les iPads demandent une quantité considérable d'eau pure, très 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 pure. Et donc, sinon, comment est-ce que vous pouvez avoir les iPads si l'eau qui est utilisée pour faire les produits, les composants, n'est pas très très pure? Vous ne pourriez pas l'avoir. Et donc, et l'industrie nucléaire. Et maintenant, ils veulent même faire du gaz à partir des schistes bitumineux avec la technologie de la fracturation qui demande énormément d'eau. Et ensuite, une fois qu'on fait l'opération, l'eau qui en ressort est complètement polluée, contaminée, très dangereuse pour des usages humains. Et voilà alors que finalement, le tableau que je viens de brosser rapidement et qui demande des fortes préoccupations, demande aussi une grande chose, que les citoyens se réveillent, qu'ils n'acceptent pas d'être des consommateurs, Ils ne craignent pas d'être contents qu'ils consomment de l'eau pour leur piscine, pour leur salle de bain, pour leurs produits agricoles, etc., au moindre prix, et qu'ils acceptent même une augmentation du prix, et parce que, de toute façon, eux, ils pourront payer. Ces consommateurs du monde développé, dit développé, du monde dit riche, ils devraient devenir des citoyens. Et citoyen signifie se mettre dans une position où l'eau est bien commun, est bien pour tout le monde. L'eau ne peut pas être uniquement source de vie pour les riches. C'est un scandale. C'est inacceptable que des catholiques acceptent ça. C'est inacceptable que des musulmans acceptent ça. C'est inacceptable que des hindous acceptent ça. Que l'eau soit source de vie uniquement pour les plus forts, pour les plus riches. Et donc, devenir citoyen signifie, à l'heure actuelle, même si souvent ça n'amène à rien, descendre dans la rue, protester et aller au-delà de la protestation. Essayer de trouver des solutions et faire des solutions. Et les citoyens sont la solution. La solution au niveau local, avec des systèmes de gouvernement de l'eau participés, orientés vers les droits pour tout le monde, orientés par un souci réel de préservation de la ressource dans le cadre d'un environnement qui soit véritablement respecté par les êtres humains. Et pas seulement déclarer les dimanches ou dans les discours sur le développement durable. Il signifie que des citoyens deviennent conscients et responsables. Pas simplement proposer ou espérer que les dirigeants soient sages, mais que les citoyens doivent même être responsables. D'où, par exemple, les idées de développer des coopératives de gestion sur l'eau, de gestion de l'eau de pluie dans les villes. Nous, on ne valorise plus l'eau de pluie. Elle est laissée couler dans les égouts. Alors qu'on devrait utiliser l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie, on peut, si on gère bien l'environnement, on peut l'utiliser sans manipulation considérable et coûteuse pour certains usages humains. Si on peut les transformer en pluie, l'eau de pluie pour la potabilisation, là, c'est un peu plus onéreux du point de vue économique, mais on peut le faire.
Ricardo Petrella, un mot aussi sur les conséquences dans les pays riches de la marchandisation de l'eau. C'est aussi l'augmentation des tarifs de l'eau, un potentiel de corruption autour des marchés de l'eau. Et puis aussi un mot aussi sur la question de la pollution, ou plutôt de la dépollution. Est-ce que les sociétés qu'on charge de la gestion de l'eau font correctement leur travail dans l'effort de dépollution de l'eau?
Alors, pour ce qui concerne les prix de l'eau, notamment dans les pays que vous dites riches, effectivement, là, c'est un abus qui a été établi, parce qu'on dit, si tu veux l'eau, ben voilà le prix. Et que l'idée fondamentale était de dire, puisque tu consommes, et ce n'est pas vrai qu'on consomme l'eau, on utilise l'eau, l'eau ne se consomme pas. Ce n'est pas comme du papier que vous utilisez, consommez, ou bien un poire, une pomme, ou bien une pizza. L'eau ne se consomme pas, s'utilise, elle est puis transformée par les usages. Mais enfin, bref, on a dit, puisque tu utilises l'eau, tu dois la payer parce qu'il y a des coûts pour que tu puisses avoir accès à l'eau. Et alors, c'est le consommateur-payeur, c'est le principe consommateur-payeur. Ce n'est pas le principe citoyen. Vous n'avez pas, aujourd'hui, dans nos sociétés en France, vous n'avez pas accès à l'eau en tant que citoyen. Vous avez accès à vos robinets uniquement comme consommateur. Comme vous avez accès à la pompe d'essence comme consommateur. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous n'avez pas droit au pétrole, mais vous avez droit à l'eau. Parce qu'on peut vivre sans pétrole, même si, effectivement, dans nos économies, ce serait un gros problème. Mais on a toujours vécu sans pétrole jusqu'à il y a 100 ans, etc. Et donc, alors, on donne un prix parce qu'on a adopté, et ça c'est vos compagnies multinationales françaises qui l'ont imposé, un prix parce qu'il y a des coûts, et les coûts doivent être payés par les consommateurs. Alors, on dit maintenant, les compagnies et les banques disent, mais les prix de l'eau mètre cube, qui en moyenne en France est autour de 2,17 euros, en moyenne nationale, c'est trop bas. parce que ça ne permet pas trop de profit. Les taux de profit sur, permis aujourd'hui par le prix de l'eau devraient être de plus en plus importants, parce qu'effectivement, les compagnies multinationales de l'eau ne sont jamais contentes du profit qu'elles font. Elles veulent de plus en plus faire du profit. Et alors là, ils veulent augmenter les prix de l'eau. Et même, ils disent, mais il faut augmenter les prix de l'eau parce que sinon, nous ne sommes pas en mesure de couvrir les financements pour les investissements nécessaires maintenant pour traiter les eaux usées. Parce que vous le savez que maintenant, les droits reconnus par les Nations Unies ont un droit non seulement à l'eau potable, mais aussi un droit à l'assainissement. Donc, il appartient à la collectivité de faire les investissements nécessaires pour traiter l'eau avant de la laisser revenir à nature, dans la nature, ou bien traiter les eaux pour les réutiliser dans d'autres usages, par exemple traiter l'eau des égouts pour après l'usage sous l'agriculture, pour une agriculture qui ne demande pas de la qualité élevée de l'eau, etc., etc., ou bien pour l'industrie, ou bien pour d'autres usages. Eh bien, alors ils disent qu'il faut augmenter les prix. Et c'est pour cela, c'était un scandale dans les dernières années, même en France, où les compagnies ont chargé une partie du prix qui devrait couvrir l'assainissement sans avoir fait les investissements. Et prélever une partie du prix de l'eau était destinée à financer les assainissements en prévision. Et ils voulaient accumuler pour ensuite faire les investissements en prenant en charge, donnant la charge du financement aux consommateurs et prenant aucun risque. Et là, ça a provoqué beaucoup de réactions de la part des gens en France aussi qui disent « Mais pourquoi voulez-vous nous imposer une partie, presque arrivée, la moitié du parti du prix de l'eau était dédiée pour l'assainissement alors qu'on n'a pas encore les services de l'assainissement ?» Ça, ce n'est pas été seulement en France, c'était en Espagne, en Italie, c'était aussi au Canada récemment, aux États-Unis, bon là, ils sont depuis longtemps à faire payer la facture sur l'assainissement, mais avec quelques problèmes aussi aux États-Unis. Donc, maintenant, là, toute la polémique sur les prix de l'eau me paraît justifiée à plusieurs titres. Le premier titre est de dire, mais pourquoi, si j'ai droit à l'eau, la quantité nécessaire et indispensable pour garantir ce droit qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, se situe à 50 litres par jour par personne, pourquoi dois-je payer ces prix en tant que consommateur, les prix des 50 litres? Il faut que ce soit la collectivité qui me garantit ces 50 litres, donc le coût relatif à ces 50 litres doit être couvert par la collectivité à travers la fiscalité générale. Mais vous savez pertinemment qu'à l'heure actuelle, si vous parlez de fiscalité, tout le monde dit que ce n'est pas possible, les entreprises disent que ce n'est pas possible. On est déjà trop chargé, alors que ce n'est pas vrai. Alors que la plupart des entreprises, surtout les plus grosses dans nos pays, payent peu de taxes avec toute une série de mécanismes, y compris ceux de l'évasion fiscale. Mais l'argument est qu'ils payent trop de taxes et donc ils doivent augmenter les prix des services qu'ils s'offrent. Alors, du point de vue de l'eau, le droit à l'eau pose effectivement un gros problème de transparence. Les gens, finalement, ne savent pas à quoi sert le prix et comment il est distribué, comment réparti. Et on fait tout un mélange. Les formules de calcul sont très, très compliquées et les gens ne comprennent rien. C'est pour cela que maintenant, un petit pas en avant a été fait par suite à l'élection du nouveau président français qui a essayé de répondre un peu partiellement à cela en parlant d'une tarification sociale de l'eau, c'est-à-dire pour dire effectivement que les familles très pauvres en France, elles sont de plus en plus nombreuses, paye une tarif de l'eau des premiers litres nécessaires qui pourrait répondre un peu à l'exigence du droit à l'eau n'est pratiquement pas un tarif qui correspond à ne pas payer. Mais alors, tous les problèmes lorsqu'on fait la tarification sociale, c'est qu'il y a un geste meilleur que de faire payer l'eau comme un prix de marché, c'est que malgré tout, la tarification sociale a une conception, véhicule une conception du droit à l'eau un peu discriminante, de dire simplement le droit à l'eau appartient aux pauvres, alors que le droit à l'eau, en principe, devrait appartenir à tout le monde. Mais la diversité du financement passe par la fiscalité, ne passe pas par faisant payer peu les pauvres. Mais il ne faut pas payer pour les droits à l'eau. Et puis le financement vient par les taxes. Alors là, les riches sont effectivement discriminés, mais ça c'est juste et c'est correct. Que les riches, parce qu'ils deviennent riches, non pas parce qu'ils sont seulement malins, mais parce qu'ils permettent, c'est toute la société entière, par l'économie collective, par les services, par les écoles, l'université, par les recherches, par les routes, par les téléphones, par les hôpitaux, par les, que les riches peuvent devenir riches, et c'est pour ça qu'ils contribuent plus que les autres au financement collectif,
Ricardo,
à la fiscalité.
Ricardo,
donc, Petrella, les prix de l'eau soulèvent tout ça.
Oui.
Soulève un problème de justice d'abord, ensuite un problème de transparence et ensuite un problème de gouvernabilité du futur. On ne peut pas dire que les populations, même des pays riches, aient accès uniquement à, en fonction d'un prix qu'ils peuvent payer et alors on est gentil avec les pauvres parce que comme ça ils sont payés, ils payent moins. Mais il reste toujours des consommateurs qui doivent payer. Dans les pays pauvres, les problèmes sont encore plus dramatiques parce qu'en fait, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas d'eau. Et dans les quartiers urbains, des villes de tous ces pays-là, la très grande majorité habite dans des bidonvilles où il n'y a pas de service hydrique, il n'y a rien, il n'y a pas de service d'égout, il n'y a pas de service sanitaire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Bon, et sont à l'heure actuelle les 1,4 milliard de gens qui habitent les bidonvilles, eh bien là, dans les quartiers des urbains, finalement, les habitants riches payent moins proportionnellement pro capite que les pauvres. Parce que si les pauvres, qui n'ont pas un système d'aqueduc, qui veulent avoir accès à l'eau, ils l'ont par des camions-citernes privés, et ils payent. Et l'ONU a calculé qu'au fond, les pauvres dans toutes ces villes, habitants de bidonville, les payent 6 fois plus cher l'eau potable, qui n'est pas d'ailleurs assez potable, que les riches. Et au fond, la grande justice, entre guillemets, du monde actuel dans les pays pauvres, c'est que les pauvres financent l'accès à l'eau des riches. Et là, encore, c'est un de ces scandales dont la presse, d'ailleurs, souvent soumise aux intérêts des groupes dominants, la presse ne parle jamais. La presse parle davantage de tennis, parle davantage de football, parle davantage de la vie des people, des fameux, de ceci, etc. Et puis, de toutes ces choses-là, ne parle pas. Alors qu'effectivement, si je devais résumer de nouveau le problème du prix de la vie, la grande question du monde actuel, c'est que tout passe par qui aura accès aux toilettes. C'est qui aura accès finalement à l'eau.
Un dernier mot alors avec vous, hein, c'est sur l'université du bien commun. Est-ce que vous pouvez nous en
oui.
dire deux mots, en quoi ça consiste exactement?
Oui, j'essaierai court là aussi, parce que les autres thèmes que vous m'aviez posés comme questions méritaient une analyse, et j'étais même très 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 bref, très court dans l'analyse. Mais pour l'université du bien commun, c'est au fait de dire que l'enseignement aujourd'hui, notamment au niveau universitaire, ne prépare pas, ne développe pas la culture des biens communs. Les universités aujourd'hui ont comme tâche de fournir les savoirs, les compétences les plus élevées pour que des ressources humaines aux compétences les plus élevées soit employable pour par les entreprises, pour permettre aux entreprises d'être les plus compétitives sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire l'université a été pratiquement asservie à la logique de la formation élevée des ressources humaines pour faciliter la compétitivité des entreprises de la nation. Et moi, je trouve que ça, encore une fois, c'est une manière perverse d'utiliser un instrument aussi fantastique qu'est la connaissance. La connaissance ne doit pas permettre aux plus forts de devenir encore plus forts, plus compétitifs pour éliminer les concurrents des marchés. Parce que ça, c'est la connaissance au service de la survie, au service de la conquête, au service des guerres, pour que le plus fort s'impose. Et le plus fort, normalement, s'impose pas au service des gens, elle s'impose au service des propres actionnaires, de sa propre puissance. Et alors, la connaissance, au contraire, est un bien commun. La connaissance doit être une modalité, un instrument au service de, guillemets, l'enrichissement collectif pour bien vivre, mieux vivre tous. À l'heure actuelle, la connaissance de nos universités qui sert pour faire rendre accessibles les téléphones mobiles à plus de personnes au monde qu'aux toilettes, signifie que l'université est en train de trahir sa fonction. L'université devrait servir davantage à permettre d'avoir accès aux toilettes. Mais l'université, par exemple, dans les connaissances économiques et financières, mais l'économie actuelle enseignée dans les universités est au service des logiques de conquête, d'affirmation des plus compétitifs. Et on enseigne dans les business schools, on enseigne dans l'économie d'administration, etc., comment produire mieux les téléphones mobiles que comment organiser la capacité des sociétés de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'assainissement. Donc, l'eau est un bien commun, comme l'est la vie. Et c'est pour cela qu'il faut promouvoir toutes les initiatives à tous les niveaux et dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la formation, que ce soit l'information, que ce soit la gestion des champs, des terres, l'agriculture, que ce soit l'énergie, etc., dire que nous sommes confrontés non pas à comment optimiser l'utilité de chacun de nous par rapport aux opportunités que la vie s'offre, mais comment nous sommes capables de vivre ensemble en valorisant tous ces biens qui sont communs, qui nous sont donnés par la vie gratuite. Bon, la nature nous donne la pluie, elle ne nous demande pas de payer les nuages, la nature. Ni Dieu n'a jamais voulu qu'on paye l'eau qui vient de sa part, dit-on, certains disent que vient de sa part, en payant. Et donc, les biens communs signifient que nous devons organiser notre économie, notre société, notre technologie, notre science, notre manière d'organiser les communes, les municipalités, de manière à donner priorité, à valoriser, à faire grandir les biens communs et les services communs indispensables pour la vie, et à faire décroître la croissance des biens individuels, des biens prédateurs de la vie. Les voitures énormes, puissantes à l'heure actuelle, les SUV, sont des prédations de la vie. Et il faudrait au contraire valoriser les transports collectifs. Et voilà la différence et la notion de bien commun. Nous, comme université, une petite association dans différents pays, nous essayons d'organiser des débats, des réunions, des séminaires, des publications qui mettent l'accent sur le bien commun. Et l'Université du bien commun a lancé maintenant une campagne, une initiative qui s'appelle « Déclarons illégale la pauvreté ». Et nous venons de commencer avec l'Italie, où l'Université du bien commun, moi je suis italien et je reste toujours lié à mon pays, même si j'habite depuis plus de 40 ans ailleurs, notamment en Belgique. Nous avons ces jours-ci lancé publiquement cette campagne qui vise à intervenir sur les causes structurelles de l'appauvrissement, et pas de corriger uniquement les symptômes de la pauvreté. Alors que les mécanismes d'appauvrissement sont en train d'être de plus en plus forts, même en France. Et pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs structurels d'enrichissement inégal, injuste et prédateur. Aujourd'hui, la richesse n'est pas au service des gens. L'enrichissement est au service des enrichis, est au service des objectifs de puissance économique, de puissance financière, de puissance militaire. Aujourd'hui, l'enrichissement se fait souvent, encore aujourd'hui, au détriment de la qualité de la vie de la nature. Aujourd'hui encore, on exploite la nature. En revanche, un développement durable réel signifié n'est pas exploiter la nature, signifie maintenir une capacité de vie. Et alors, il faut la décroissance de tout ce qui effectivement contribue à la prédation de la vie et à l'appauvrissement des gens. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident qu'il y a l'appauvrissement mondial en ce moment. C'est parce qu'il y a la crise d'une économie prédatrice. C'est parce qu'il y a un enrichissement qui continue financier, spéculatif, et injuste, inégal et prédateur. Et c'est là le bien commun. Et c'est là alors l'université du bien commun. Et c'est là les campagnes qu'il faut faire pour rétablir la justice à travers nos sociétés. Et ce n'est pas idéal, ça. Ce n'est pas du rêve. Le plus grand rêve méchant, c'est de penser qu'il n'y aura pas d'accès à la vie pour tout le monde. Le plus grand rêve méchant, c'est de penser qu'on peut continuer à aller dans le monde actuel et qu'il suffit de laisser au marché financier régler la question. C'est illusoire, ça. C'est un rêve terrible. De dire laissons au marché financier, aux banques, aux bourses décider de devenir de notre planète. Ça, c'est la chose la pire qu'on peut penser. Et d'ailleurs, la plus irréaliste, parce qu'on voit qu'en faisant comme ça, on ne favorise que les logiques d'appauvrissement et les logiques d'enrichissement inégal, injuste et prédateur.